Il est né en Union soviétique, exactement comme moi. Et pour nous, ex ou ressortissants de l'ex-Union soviétique, tous les procédés du wokisme qu'on observe aujourd'hui, quel que soit le domaine, ressemblent beaucoup à tous les procédés que nous avons déjà connus, tant adolescents, dans ce pays. Donc ce n'est pas une nouveauté. Les manifestations sont différentes, mais les procédés et les invariants sont les mêmes. Donc effectivement, pour tous ceux qui vivent aujourd'hui en France, en Allemagne ou aux États-Unis, nous reconnaissons très bien ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, même si les manifestations sont nouvelles. Bon, on va commencer, on va passer à notre sujet. Et avant de vous présenter les intervenants de cette table ronde, une petite citation de Gombrich, de l'histoire de l'art, puisque la table ronde est consacrée à ce sujet. Donc je vous lis la citation et ensuite on va faire un petit commentaire de texte. Il dit dans la préface à son ouvrage que tout le monde connaît, qui est quand même un classique, « Je voudrais que cet ouvrage aide les yeux à s'ouvrir et non les langues à s'agiter. Bavarder sur l'art à tort et à travers n'est pas chose très difficile, car à force d'être employé, le vocabulaire de la critique a perdu beaucoup de sa précision. Porter sur un tableau un regard nouveau et s'efforcer d'en faire la découverte est chose beaucoup plus difficile, mais entraîne à coup sûr une récompense dont le caractère imprévu n'est pas le moindre attrait. » Donc, pour revenir à cette citation à laquelle je pensais en préparant cette table ronde, j'ai aussi lu les articles qui étaient consacrés au colloque. Donc il y a des articles divers et variés. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent que nous sommes aveugles, nous sommes vieux, nous sommes mal. Donc vous voyez, leurs yeux sont grands fermés, mais les langues s'agitent beaucoup. Donc c'est une citation qui illustre très bien donc, le sujet de notre conversation, mais aussi l'état dans lequel se trouvent les adversaires de la construction, de la reconstruction. Alors, cette table ronde va être... On a réuni ici les spécialistes d'histoire de l'art et les spécialistes de la littérature. Et donc, ils vont tous parler des problèmes qui sont liés à la déconstruction, le déboulonnage de l'art et de la littérature, et du fait que ces domaines de l'activité humaine, aujourd'hui, sont sujets aux tribunaux divers et variés. C'est-à-dire que ce qu'on demande de l'art, ce n'est pas du plaisir, ce n'est pas de la complexité, mais c'est de répondre aux exigences de la vertu. Et c'est comme ça qu'on retombe dans le dogmatisme religieux. Donc, pour citer ma collègue Claude Habib, qui a parlé hier de la littérature, s'ouvre aujourd'hui l'ère du soupçon qui concerne tous ces domaines. Je vais commencer par Hubert, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc, on a une collègue qui ne s'est pas désistée, elle est tombée malade. Carole Talon-Hugon, malheureusement, n'a pas pu venir ici. Ça, on aurait eu... une participation de philosophes, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc on va commencer par le spécialiste de la littérature. Et j'ai le plaisir de vous présenter Hubert Eichmann, qui est d'une part le cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme, d'autre part c'est un ancien élève, c'est peut-être pour ça qu'ils disent qu'on est vieux, parce qu'ils sont tous anciens élèves des écoles normales de la rue d'Ulm, c'est peut-être la raison. Donc c'est un ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, il est maître de conférences en langue et littérature française du Moyen-Âge à l'université de Rouen. Donc, il est aussi spécialiste de la poésie hippique et en particulier des chansons de gestes de 11e et 13e siècle. Hubert va nous parler des procès qui sont faits aujourd'hui à la littérature.
La parole est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais bien, richement jaunissant, en pluie d'or goutte à goutte descendre dans le beau sein de ma belle Cassandre, lorsqu'en ses yeux le somme va glissant. Je voudrais bien, en taureau blandissant, me transformer pour finement la prendre, quand en avril, par l'herbe la plus tendre, elle va, fleur, mille fleurs ravissant. Je voudrais bien, afin d'aiser ma peine, être un narcisse et elle une fontaine, pour m'y plonger une nuit à ses jours, et si voudrait que cette nuit encore fût éternelle, et que jamais l'aurore, pour m'éveiller, ne rallumât le jour. Comme beaucoup d'autres textes, le sonnet 20 des Amours de Ronsard a été récemment mis en accusation. Des collages féministes ont fleuri sur les murs même de la Sorbonne où nous nous trouvons. On pouvait y lire par exemple « Ronsard au programme » égale « Fantasme du viol au programme ». Des candidats à l'agrégation ont dénoncé dans ce sonnet une « fantaisie de viol ». Le viol de Cassandre y étant présenté comme désirable. Ces agrégatifs ont trouvé que le poème, je cite, « peut être extrêmement violent pour certains, point E, point S, élèves ». et les placer dans une, je cite, « situation d'insécurité ». Des professeurs du secondaire déclarent sur Internet renoncer à faire lire Ronsard à leurs élèves. C'est le canon littéraire qui est mis en procès. Les œuvres classiques causeraient du tort aux étudiants et aux élèves. Il faut les en protéger par des « trigger warnings », parfois traduits « traumavertissements ». Il s'agit d'une mise en garde contre la présence de contenus potentiellement blessants, ici l'évocation du viol. Ou plus radicalement par un déboulonnage du canon littéraire, tel que prôné aux États-Unis par l'initiative « Disrupt Texts ». Dans le procès pour viol du sonnet 20 de Ronsard, la parole est à présent à la défense. Ce poème s'empare de motifs mythologiques pour les mettre en mouvement, les transmuer. La pluie d'or et le taureau sont des allusions au ravissement de Danaé et d'Europe par Zeus, rêverie érotique sur le thème de l'étreinte brutale, certes. Mais au cœur du poème s'opère la transmutation du poète en Narcisse, passif et endormi, tandis que l'initiative passe à Cassandre, car c'est elle à présent qui va ravissant. Le geste de saisir et l'abandon au sommeil circulent entre les deux amants en un tourbillon. Commentant ce sonnet, Sabine Procoris écrit « De fait, l'amour comme le sommeil nous arrache à nous-mêmes, défait, oui, notre précieuse identité. Nous tire hors, dirait Montaigne. C'est aussi, on peut l'espérer, ce qu'opèrent l'art et la littérature, nous permettre de pouvoir librement devenir autre. Un viol ou une transmigration, demande-t-elle. L'amour comme la poésie crée le trouble dans notre identité en nous obligeant à accepter le risque de la fluidité. Paradoxalement, c'est cela qui est redouté aujourd'hui par les interprétations militantes, car ce trouble remet radicalement en cause l'essentialisation des identités. L'amour comme la poésie sont des expériences de l'altérité qui mettent en péril la zone de confort des affirmations identitaires. Le sujet lyrique est bien plus vaste que le moi du poète. Pour lire dans ce sonnet une apologie du viol, il faut lui dénier sa spécificité d'œuvre littéraire et le traiter comme un discours ordinaire, ou plus précisément comme un discours de pouvoir. C'est bien la déconstruction, durant ce qu'on a appelé l'ère du soupçon, qui a invité à dégrader la beauté classique, à dévoiler partout le bas qui se cache sous le sublime, les plus vils instincts qui se parent d'idéal. C'est l'ontologie du rapport de force, promue en manie scolaire, qui incite chaque élève à réduire l'œuvre littéraire à l'expression d'une domination crue, souvent de nature sexuelle, dont on décrète que c'est le seul réel que la littérature rend accessible. En 1961, Robert Forisson, connu aujourd'hui pour ses thèses négationnistes, publiait une lecture du sonnet « Les voyelles » de Rimbaud, qu'il prétendait avoir élucidé. Se moquant des interprétations mystiques du poème, il ne voyait dans les voyelles qu'une mystification érotique. Selon lui, les voyelles dessinent de façon cryptée un corps féminin nu incoitu. Son analyse, qui se prétend réaliste et crue, est volontairement dégradante pour le mythe de Rimbaud, pour la poésie et pour le corps de la femme. L'herméneutique pseudo-féministe de 2021 est étrangement proche de la démarche de Forisson en 1961. Il faut arracher le voile de la beauté, décaper le vernis de culture et traquer dans les textes une signification sexuelle dégradante. C'est le même fantasme qui obsède et pétrifie la lecture. Mais dans les années 1960, les déconstructeurs tenaient le voile de la beauté pour une convention hypocrite et aliénante, et ils considéraient leur dévoilement comme un acte émancipateur. Alors que le même fantasme et le même acte de dévoilement se retournent aujourd'hui contre la liberté sexuelle du mâle 68-art dont ils prolongent pourtant le geste. Une première phase de déconstruction a établi un soupçon maximal contre la référentialité de l'œuvre littéraire, car c'est le sens latent, celui qui relève de la domination sexuelle, qui constituerait le seul vrai sens. Dans les années 80, Serge Dubrovski dévoilait ainsi un viol symbolique dans la scène 4 de l'acte 3 du Cid, où Rodrigue, qui vient de tuer le père de Chimène, se rend chez elle l'épée à la main et lui demande de s'en servir pour la tuer. Serge Dubrovski conclut au viol symbolique en identifiant l'épée au phallus. Les images pointues ou dressées seront forcément des images phalliques, les images creuses des images du sexe féminin. À cette réduction du sens, à cette destitution de l'œuvre, il suffit d'ajouter l'indignation vertueuse, totalement absente de ce type d'interprétation dans les années 60 à 80 où elles étaient en vogue, pour obtenir la recette des lectures pseudo-féministes caractéristiques de la seconde phase en cours de la déconstruction. Une universitaire dénonce par exemple en ces termes l'invisibilisation des femmes par la métrique de la Renaissance. Je cite « Du coup, On a nommé « e » féminin le « e » non accentué et « e » masculin le « e » correspondant au son « e » qu'on se met parallèlement à doter d'un accent, tant il est vrai sans doute que l'homme se caractérise par un petit quelque chose en plus qui monte quand il est dur. Et elle ajoute un peu plus loin, quant à l'alternance des deux types de rimes peu à peu théorisées comme nécessaires dans la belle poésie, elle constitue une autre déclinaison de l'anthropomorphisme. En l'occurrence, elle traduit l'idéal hétérosexuel des rapports humains. Cet exemple, tiré d'un livre intitulé « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », montre jusqu'à quelle absurdité va l'identification du sexe masculin et du sexe féminin dans la langue. Avec une fixation sur la lettre qui n'a rien à envier à la lecture des voyelles par Forisson. Octave Manoni écrivait au sujet de son interprétation de Rimbaud « Je ne crois pas qu'on puisse reprocher à M. Forisson quelque chose comme d'avoir fait un contresens, plutôt de ne pas s'être demandé ce que c'est que faire un sens. » Ce jugement s'applique parfaitement aux indignés vertueux qui font de Ronsard un promoteur de la culture du viol, qui voient dans les accents aigus des sexes en érection, invisibilisant le « e » muet des rimes féminines, et qui dénonce dans l'alternance des rimes masculines et féminines la perpétuation d'un ordre hétéronormatif. Ce ne sont pas des contresens, ce sont des fantasmes qui paralysent toute quête de sens. Il y a une jouissance certaine à se livrer à cette dégradation, une jouissance à profaner la lecture reçue, à abîmer la lecture de l'autre en imposant la sienne. C'est ainsi que la dénonciation d'une prétendue domination instaure de fait un rapport de force bien réel. Il faut corriger le canon, remplacer les textes écrits par des hommes par ceux écrits par des femmes, établir au moins une parité, comme si les textes avaient des sexes. Établissant un rapprochement entre l'interprétation de Rimbaud par Forisson et ses thèses négationnistes, Hélène Merlin-Cajman dénonce dans les deux cas un rapport au réel qui détruit la réalité du monde. L'interprétation déconstructive d'un poème est moins une interprétation qu'une prétention à l'élucidation qui épuise le sens et disqualifie toutes les autres lectures possibles. Une interprétation authentique, au contraire, dans le prolongement du poème lui-même, me tire hors de moi-même pour me faire entrer en dialogue non seulement avec le poète, mais également avec les autres lectures possibles. Le problème de ces lectures qui dénoncent l'empreinte de la domination dans les textes littéraires n'est pas qu'elles proposeraient une interprétation non pertinente, fausse ou même délirante. Tout cela devrait pouvoir se discuter avec profit. Non, leur problème, c'est qu'elles prétendent s'imposer violemment en interdisant toute autre lecture. Lors des récentes polémiques sur Chénier ou Ronsard, tous les critiques émettant des réserves ou des doutes sur la culture du viol qui serait entretenue par ces auteurs ont été la cible de cyberharcèlement, de dénonciation, d'attaques souvent anonymes. La violence du procès qui est faite à la littérature n'étonnera pas l'historien. De Platon à Pinard, la mise en accusation des œuvres au nom de la morale est aussi vieille que la littérature. Seule innovation, la littérature a été accusée pendant des siècles de défaire toutes les normes. On l'accuse à présent de les entretenir. Mais l'histoire pourrait aussi nous inviter à ne pas désespérer. Platon bannit les poètes et on le prend parfois en flagrant délit de poésie. Quant au procureur impérial Pinard, qui requit contre Madame Bovary et les Fleurs du Mal, il fut prouvé quelques années plus tard qu'il était l'auteur d'un recueil anonyme de vers obscènes. Et puis la littérature s'est toujours mieux portée dans les époques où elle subit des attaques que dans les époques où elle ne suscite qu'indifférence. Pour reconstruire les études littéraires, il faudrait d'abord partir de ce qui, dans les œuvres, ne se réduit pas au discours et qui fait la spécificité de la vraie littérature. Et on rejoint peut-être le thème de la musique tout à l'heure, qu'on ne peut absolument pas réduire à un discours non plus. Il faudrait aussi respecter l'altérité culturelle des époques passées. L'université de Leicester a supprimé de ses programmes l'an dernier l'étude des textes médiévaux pour les remplacer par des modules sur le genre et sur la race. Il s'agissait d'une entreprise assumée de décolonisation des programmes. Dans l'université française, de façon plus sournoise, les heures de cours consacrées aux littératures des périodes anciennes se réduisent peu à peu. On dénonce dans les œuvres du passé les préjugés et les processus de domination contre lesquels on prétend lutter dans le présent. Ce faisant, la déconstruction ne fait qu'entretenir un préjugé ancien. Le médiéviste Paul Zumthor écrit « L'institution bourgeoise se considérait elle-même comme le terme d'une évolution, comme le terme stable à partir duquel on pouvait interpréter le passé. Les déconstructeurs perpétuent cette illusion bourgeoise en l'inversant. Ils voient partout du même. Dans l'héritage culturel, ce sont les mêmes tares à dénoncer que dans la société contemporaine. Le passé, c'est toujours la même chose, mais la même chose en pire, contre laquelle il faut lutter. Au contraire, nous devons travailler à partir de notre propre historicité, à faire apparaître l'altérité, l'étrangeté des cultures du passé. Nous devons partir de questions qui se posent à nous dans le présent, sans faire du passé l'écran de projection de nos préoccupations morales contemporaines. Le lecteur qui juge le passé à l'aune de ses propres critères moraux ne vaut pas mieux que le touriste qui s'indigne à l'étranger de mœurs différentes des siennes. Paul Zumthor s'interrogeait déjà sur la place du Moyen-Âge dans les programmes scolaires. Quelle place voulons-nous faire dans notre enseignement, dit-il, à la dimension historique du fait humain, et en d'autres termes à la culture? Si on admet que les jeunes doivent être initiés non seulement aux faits, c'est la science, mais également aux modalités d'existence des faits dans le temps, c'est ce que je nommerai la culture, alors on peut se demander ce qu'on fera du Moyen-Âge. Naturellement, continue Zumthor, j'aurais envie de prêcher pour ma paroisse, mais je dirais d'abord que tout texte éloigné dans le temps pourrait faire l'affaire. On pourrait laisser au professeur la liberté de choisir des textes latins ou grecs ou des hymnes égyptiens. Contre le vieux mythe de la continuité paradoxalement entretenue par le wokisme et qui me permet de signaler Ronsard comme s'il était mon harceleur de rue, il faut promouvoir un enseignement de l'altérité. Le sonnet vain des amours nous apprend que l'autre est à l'intérieur de nous et la confrontation avec les chefs-d'œuvre du passé nous permet de même de comprendre ce qu'est une évolution. Pour enrayer la disparition de la littérature des siècles anciens dans les programmes universitaires et dans l'horizon culturel contemporain, il faut reconnaître et respecter l'altérité des cultures distantes dans le temps, autant que l'on respecte l'altérité des cultures distantes dans l'espace. Pour sortir du nouvel ethnocentrisme woke, il faut faire sentir les différences dans l'ordre culturel, car ce sont les différences qui mesurent le temps. Le procès fait à la littérature relève d'une panique morale. Il conduit certains lecteurs à se réfugier dans leur safe space pour fuir le risque de l'altérité. Car l'amour, comme la poésie, comme le contact avec les cultures du passé, me tire hors de moi-même. Il me transforme, comme l'écrit Ronsard. Le procès woke contre la littérature aura au moins le mérite de nous rappeler la réelle prise de risque qu'implique nécessairement toute rencontre authentique, toute quête du plaisir comme du savoir.
Merci beaucoup, Hubert, pour cet exposé magnifique. Deux remarques qui me viennent comme ça à l'esprit. Je me suis souvenue que l'année dernière, dans Le Monde, il y avait un article qui a été consacré à la parité dans la création. Une journaliste regrettait que les romanciers masculins mettaient en scène moins de personnages féminins que les romancières femmes de personnages masculins. Vous voyez ? Et donc, elle proposait d'installer une parité dans la création. C'est un article que je peux vous retrouver et citer. Il était assez curieux. Et donc, en fait, vous voyez que cette atteinte à la création, tu parlais de l'amour et de la beauté de la littérature, mais il y a aussi la créativité et la création qui, maintenant, doivent être contrôlées, ce qui est réellement un des procédés du régime totalitaire. Et la deuxième remarque qui est très intéressante, c'est que les inclusivistes parlent tout le temps de l'autre, avec un grand A, évidemment. Mais en fait, ils ignorent tout de l'autre, ils ne s'intéressent qu'à soi. Et c'est ce qu'on aime bien voir dans cet exposé. C'est d'ailleurs un des paradoxes dont on a parlé hier avec Pierre Valentin. Merci beaucoup, Hubert. Et je passe la parole à Jérôme Delaplanche. C'est l'heure alphabétique. Il est là, je sais très bien. C'est pour ne pas vous vexer. Hein.
Non.
Attention, pas d'offense. Donc, Jérôme Delaplanche est l'historien de l'art. Il est spécialiste de la peinture française des 17e et 18e siècles. Il est aussi ancien pensionnaire de Villa Médicis. Je vous dis, on a beaucoup d'anciens ici. En 2004 et 2005, il revient à Villa Médicis entre 2015 et 2018 pour diriger le département d'histoire de l'art. Et c'est en partie en cette raison qu'il a réagi avec une certaine vigueur, une grande vigueur en fait, à la pression des pensionnaires qui, en septembre 2021, à peine arrivés entre les murs de la villa, ont commencé par exiger le décrochage de la tenture des Indes, je crois que tout le monde connaît ce tableau, accusé d'être une œuvre évidemment raciste et colonialiste. Alors Jérôme publie une tribune sur cette affaire exemplaire sur le cancel culture, et c'est un texte qui a eu un fort écho dans le milieu des historiens de l'art, en général peu sensibles à ce genre de questions. La parole est à toi, Jérôme.
Merci beaucoup. Donc en effet, je suis historien de l'art, et je le précise d'emblée parce que la chose n'est pas très commune dans la lutte contre le déconstructionnisme. En effet, étrangement, les historiens de l'art, en général, s'intéressent peu au phénomène woke, ou le prennent pour négligeable, ça ne les concerne pas. C'est étrange parce que c'est une discipline culturelle qui a, si l'on veut, le plus souffert avec le retrait ou le déboulonnage destruction des statues. D'ailleurs, on appelle le déboulonnage ce qui est en fait une vraie destruction. Alors effectivement, je suis invité ici pour vous parler de la Villa Médicis. La Villa est une institution fort ancienne, une résidence d'artistes et de chercheurs qui accueille ce qu'on appelle des pensionnaires pendant un an. La Villa Médicis abrite également un département de recherche en histoire de l'art. Effectivement, j'ai eu l'honneur de le diriger de 2015 à 2018. Les pensionnaires qui sont accueillis sont parfois très politisés. Et l'histoire des tapisseries de la Villa remonte en vérité 4 ans plus tôt. Un jour, à l'automne 2017, les pensionnaires arrivent en septembre. Et donc là, c'est vers l'automne, un des pensionnaires interpelle la direction de la Villa au sujet des tapisseries accrochées dans le grand salon. Ces tapisseries font partie de, on peut les voir du coup maintenant, de la tenture des Indes, qui avait été tissée entre 1723 et 1726, à partir de tableaux et dessins réalisés par deux artistes néerlandais. Voilà, donc deux artistes qui avaient été envoyés et qui accompagnaient Maurice de Nassau au Brésil au début du XVIIe siècle. Ces deux artistes avaient réalisé une sorte de reportage, si on veut, peint et dessiné, constituant un témoignage de ce qu'ils avaient vu. Et outre la nature exotique, ils virent également des habitants, des Indiens, également des Africains qui se trouvaient présents. Mais cependant, je montre quelques images, vous avez ici quelques images de cet ensemble. Le cheval Isabelle ici, le chasseur indien avec une autruche, combat d'animaux. Donc, il y a toutes sortes de sujets, comme les faisait à l'époque le roi porté, l'Indien à cheval et les pêcheurs. Et en arrière, voilà, donc je prends la principale, enfin la première, le cheval rayé, peu importe. vous disais-je, donc le pensionnaire dont je parlais avait vu sur une tapisserie, l'une de celles-ci, par exemple, celle-ci avait vu la représentation de noir, et inévitablement le soupçon apparut. La représentation d'un noir ne pouvait être innocente. Alors la Villa Médicis organisa le 15 mars 2018, donc 6 mois plus tard, une conférence pour analyser les tapisseries et convia Cécile Fromont, une historienne, pour décrypter l'iconographie. Cette historienne de l'art était une adepte de l'approche décoloniale. Autant dire qu'elle n'allait rien laisser passer. Cette épicerie allait passer un sale quart d'heure, on allait voir ce qu'on allait voir. Malheureusement, elle avait beau être décoloniale, cette historienne de l'art était également honnête. Et les deux approches ne vont pas facilement de pair. Car au fond, soit on est décolonial, soit on est honnête. Manque de chance pour ce pensionnaire ressentimenteux, en mal d'émotion, en quête de cause politique, de lutte pour la justice sociale, c'est l'honnêteté et la rigueur scientifique qui prévalurent. Et l'on ne trouva rien à redire contre ces pauvres tapisseries. Elles ne représentaient pas une odieuse scène d'esclavage. Pire, Cécile Fromont expliqua qu'elle montrait cette tapisserie, une visite de l'ambassadeur du roi chrétien du Congo. Alors, il y a une des tapisseries où on le voit ici, portée avec une petite croix en pendentif autour du cou. Et témoignons donc que cette tapisserie dans la tenture, qui, voyez-vous, représente aussi beaucoup d'autres sujets, témoigne aussi des échanges politiques, économiques et culturels du Royaume du Congo, au-delà des mers. Nous étions en mars 2018. C'était donc avant George Floyd, avant Black Lives Matter. En septembre 2021, la situation politique était bien différente et le courant woke avait eu le temps de croître. Et cette fois, ce ne fut pas un pensionnaire, mais plusieurs, et les revendications ne furent pas une nouvelle demande d'explication, mais purement et simplement le décrochage de la tenture. Autrement dit, à peine arrivés, parce que donc, les pensionnaires arrivent début septembre, et tout de suite, ils se sont plaints, et autrement dit, on était face là à une demande caractéristique de la cancel culture. Une œuvre était jugée problématique. On demande à l'autorité institutionnelle du lieu de prendre conscience de sa faute, conscience de la nature d'offense, et on lui intime d'agir. Les pensionnaires, donc à peine arrivés, exigent que l'on décroche tapisserie et elles écrivent au directeur disant que ces tapisseries, je cite, sont issues d'une culture visuelle impérialiste qui, par le recours à l'exotisme, célèbre les violences colonialistes de l'Europe, l'esclavage, la surexploitation de la nature et la réduction d'êtres humains à l'état d'objet. Tout le vocabulaire, fin de citation, tout le vocabulaire des coloniels est là. Ce que j'aime beaucoup, c'est par le recours à l'exotisme. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit toujours ce mot et le concept critiqué, mal analysé. On ne comprend pas comment on peut avoir un regard exotique sur le monde avec un terrible anachronisme de jugement. Et puis, on dit que cette tenture est une célébration des violences coloniales, ce qui est absurde. On dit que ça célèbre l'esclavage, tout aussi absurde. Alors, on indique que ça célèbre la surexploitation de la nature. Alors ça, j'avoue que ce petit épisode écologique aussi inattendu qu'incongru qui surgit, c'est tout à fait cocasse, mais on voit bien l'intersectionnalité. Alors, on ne parle pas de la souffrance des animaux dans la critique. Pourtant, vous voyez, ils se battent. Ce qui serait là, je pourrais critiquer ces pensionnaires en montrant qu'ils... En disant qu'ils font preuve d'un certain antispécisme, enfin spéciste, pardon, je me mélange les notions, parce qu'ils ne sont pas antispécistes. Voilà. Bon. Bref, donc, puis après on reprend sur la réduction d'êtres humains en état d'objet, ce qui est redondant, parce que c'est encore une fois l'esclavage. Bon. Et les pensionnaires obtiennent de l'administration l'organisation précipitée, non pas d'une conférence, mais d'une journée d'études complète dès le 30 septembre. Donc, vous voyez, ils sont à peine arrivés, semaines après, on doit organiser une longue journée d'études pour faire un sort à ces pauvres tapisseries. Conférences, tables rondes, débats. Il fallait faire passer ces tapisseries au grill de la critique morale, alors qu'on aurait surtout dû se soucier de leur état de conservation, qui est fort mauvais, autre question. Mais l'annonce de cette nouvelle journée d'études me fit bondir. Comme tous ceux qui ont vécu ou travaillé à la villa, j'ai un attachement particulier pour cette maison, à nul autre pareil. Et lorsque je vis que le Wokistan étendait son territoire de nuisance jusqu'à cette maison, mon sang ne fit qu'un tour et je rédigeai une tribune pour dénoncer l'ineptie de la critique, tant dans le détail iconographique, ce n'est pas représentation d'esclaves, que sur un sujet politique, quand bien même cela aurait représenté des esclaves, pardon, il s'agit de patrimonial auquel on ne peut attenter. Le texte fut publié sur la tribune de l'art, eut un certain écho dans la petite communauté des historiens de l'art. C'était la première fois qu'on voyait, si je peux me permettre, une prise de position aussi radicale en France contre la cancel culture dans le champ de l'histoire de l'art. Et quelques jours après, une pétition riche de plus d'une centaine de noms prestigieux fut publiée en soutien à mon article. Ce n'était pas que ce dernier avait été très critiqué, mais il était évident, enfin m'a semblé évident, que les historiens de l'art, même s'ils ignorent largement le sujet, comme je disais en introduction, sentent toutefois une menace sourde. Ils n'en parlent pas, mais ils le sentent. Et la pétition exprimait cette méfiance, ce pressentiment. Elle fut comme un cri de ralliement, une manière de montrer l'écrou. Tout le monde devait l'entendre. Si on continuait à s'en prendre des œuvres d'art en France, il y aurait une mobilisation. Alors, il y eut tout de même contre mon article et cette pétition de soutien quelques attaques inélégantes et malhonnêtes dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les auteurs de ces attaques viles feignaient de ne pas comprendre notre démarche d'opposition à la déconstruction. En effet, pour les défenseurs du woke, le courant décolonial n'est là que pour questionner, n'est là que pour interroger. Ce n'est donc qu'une démarche d'ouverture et de dialogue. Pour les wokistes, si on s'oppose à la déconstruction, en l'occurrence ici à la demande de décrochage, alors nous sommes des censeurs. En un mot, face à des gens qui veulent annuler notre culture, notre réaction d'opposition est décrite elle-même comme une censure. Absurde. Pour eux, il faudrait se laisser piétiner. On dit, paraît-il, se faire déconstruire. Comme nous souhaitons dans cette deuxième journée, après la première qui fut celle des constats, réfléchir à la manière de vaincre la déconstruction puis de reconstruire, je voudrais proposer pour le domaine de l'art, de l'histoire de l'art, une méthode de résistance qui s'étagerait à quatre niveaux. Le niveau 1 serait l'approche purement patrimoniale. On ne doit pas toucher, on ne doit pas altérer ni déplacer, pour des raisons politiques, une production devenue patrimoniale. C'est une opposition sans discussion, bas les pattes. Deuxième niveau, l'approche reposant sur l'érudition, car le plus souvent, les attaques des décoloniaux reposent sur des erreurs grossières, sur l'ignorance des faits, des anachronismes. Ici, voire dans cette teinture, comme je l'ai dit, dans cette teinture, une importation d'esclaves. Mais cette approche nécessite plus de temps et une véritable culture, pour par exemple faire comprendre que le mot racisme n'a pas de sens pour des époques aussi lointaines. C'est une approche vertueuse, peut-être un peu trop, parce qu'elle est longue, mais il faut la mener. Le troisième niveau, c'est l'approche de remise en contexte, avec une perspective mondiale et transchronologique, pour rappeler que les phénomènes de l'esclavage et de la colonisation sont des phénomènes mondiaux. Les opposants à cette mise en perspective dénoncent alors, c'est ce qui m'a été reproché, un relativisme. Ils affirment que la colonisation, par exemple, commise par les Occidentaux, est sans égale. Sans égale, mais confondant ici une différence de nature avec une différence de degré. Ce troisième niveau plaide ainsi pour l'extension de la connaissance historique à d'autres époques, à d'autres lieux, à d'autres cultures, à d'autres aires civilisationnelles. Mais comme pour le deuxième niveau, c'est très exigeant et peut-être un peu trop vertueux. Le quatrième niveau de registre d'opposition à la déconstruction est le plus complexe, le plus utopique, mais c'est celui d'une acceptation du paradigme de la force. Tout se passe comme si de nos jours, on ne parvenait pas à comprendre que la force était autrefois une vertu naturellement valorisée. Alexandre le Grand, par exemple, est certes loué pour toutes sortes de qualités, il est loué pour sa continence, sa beauté, pour l'action de mécénat, mais aussi et surtout pour sa force. Ce sont les batailles d'Alexandre que Charles le Brun peignit en grand pour faire l'éloge du roi. Louis XIV est le nouvel Alexandre. Or, la représentation d'épisodes de la colonisation est la représentation d'une manifestation de la force européenne. Mais de nos jours, on interprète qu'avec la plus grande peine cette valorisation. On ne voit plus que l'oppression d'un peuple par un autre. Et quand même le problème de la domination est historiquement totalement universel, on trouve inacceptable pour l'Europe de représenter sa force aux dépens d'un autre peuple. Ce paradigme de compassion, qu'on pourrait nommer ainsi, est en réalité très ancien, puisque des critiques contre les images de la guerre s'exprimèrent déjà ouvertement en France au XVIIIe siècle. Cela concerna en particulier les représentations des nations vaincues dans les monuments, à la gloire du roi de France, par exemple. Le sang des ennemis du roi est toujours le sang des hommes. Et d'ailleurs, dans la représentation de la conquête coloniale, les images de victoires militaires sont rares, très rares. On trouve bien davantage la description d'un état de fait, comme on l'a pu voir dans l'exposition Peinture des lointains, au Quai Branly en 2018, entre exotisme et ethnographie. Pour faire accepter les quelques œuvres d'art qui proposent une iconographie d'une domination, il faut rappeler que la volonté de puissance est, comme je viens de le dire, universelle. D'autres peuples en d'autres temps ont éprouvé le même sentiment et l'ont exercé. Ce quatrième niveau d'opposition plaide donc pour un changement de paradigme. Il propose de cesser de poser un regard unique sur la victime, qui prend parfois la forme d'une complaisance doloriste, et de renouer avec ce paradigme perdu, celui d'une célébration non pas de la faiblesse, mais de la force. Autrement dit, de dépasser le paradigme de la compassion et de redécouvrir le paradigme nietzschéen de la puissance. Par exemple, face à une sculpture équestre d'un héros terrassant ses ennemis, on peut ressentir de la compassion pour ceux qui sont sous les sabots du cheval, mais on peut aussi ressentir de la joie et de l'exaltation face au spectacle de la puissance. La joie et l'exaltation de l'œuvre d'art. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jérôme, pour cet exposé. Aussi, plusieurs remarques. Donc, j'étais étonnée de ne pas voir une autre accusation royaliste, parce qu'il me semble que cette peinture, c'est le cadeau du roi Louis XV.
Oui.
Donc, bon, c'est peut-être parce qu'il ne connaît pas.
On peut toujours cumuler des culpabilités.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est très intéressant, cette manière des wokistes, des inclusivistes, etc., de tout prendre au pied de la lettre. Ils utilisent beaucoup de métaphores, mais en fait, ils ont le rapport tout à fait concret, plat, avec le langage, la littérature et l'art. C'est assez étonnant comme procédé. Et dernière chose, on remarque effectivement, et tu nous as fait voir ça, quels sont les procédés rhétoriques du Wokistan ? C'est le questionnement. Par exemple, faut-il décoloniser les sciences ? ou faut-il démasculiniser le langage ou la littérature? Donc c'est toujours faut-il le faire. C'est vraiment un procédé rhétorique assez amusant quand on voit l'œuvre. Ben, merci beaucoup.
Je peux faire une remarque?
Oui, bien sûr.
Oui, et c'est justement le problème que nous avons tous à l'université, parce qu'on est toujours soucieux d'écoute, d'entendre des positions opposées, de travailler sur une dialectique, etc. Et de fait, eux, ils avancent comme ceci. Ils disent, voilà, on peut s'interroger. Faut-il questionner? On voudrait juste questionner, c'est juste pour questionner. Et donc, en fait, comment voulez-vous vous opposer à quelqu'un qui veut juste questionner telle iconographie? Et c'est comme ça qu'ils mettent un pied dans la porte. Et après, en vérité, ce n'est pas du tout un questionnement, ils ont déjà les réponses. Et des demandes. Et les destructions.
Voilà. Je passe la parole à mon collègue Alexandre Gadi, qui est professeur aussi d'histoire de l'art. On a beaucoup spécialistes d'histoire de l'art moderne à la Sorbonne. Depuis 2012, il occupe la chaire d'histoire de l'architecture moderne à Sorbonne Université, étant spécialiste aussi des 17e et 18e siècles et de l'histoire de Paris, carrière que Alexandre a menée longtemps parallèlement à des activités de défense du patrimoine bâti naturel comme expert et comme responsable associatif. Depuis 2019, il est détaché de l'université auprès du département des Hautes-de-Seine, et pour la réalisation d'un nouveau musée de civilisation consacré au grand siècle. Ce projet, voulu par feu Patrick Devedjian, qu'on regrette tous, c'est Alexandre qui va le mener à bien. Il va aborder la question des collections des musées dans le débat agité actuel. La parole est à vous, Alexandre.
Merci beaucoup. Je vous salue et je remercie les organisateurs de cette invitation. En réalité, je vais poursuivre peut-être un peu ce qui a été dit par Jérôme de Laplanche. Les historiens d'art sont comme des montreurs d'ours, des montreurs d'images, donc je vais travailler avec vous sur cette statue qui est à l'écran. Va voir arriver, voilà, et qui est la statue de Jean-Paul Lyon qui se trouve dans la cour du Collège de France. Je voudrais dire peut-être simplement, pour reprendre un des termes qui a été utilisé par notre présidente au début de cette table ronde, que Gombrich ne doit plus être cité parce qu'il n'y a pas de femme artiste dans son histoire de l'art et donc il a été depuis assez longtemps repéré comme un dangereux activiste masculiniste, voilà. Et donc ça fait partie des livres qu'il faut citer avec une grande précaution. Voilà. En mars 2017, Bénédicte Savoie, notre collègue qui venait d'être élu à une chaire du Collège de France, donnait sa leçon inaugurale sur « À qui appartient l'art ?». Cette leçon commence par un effet rhétorique très spectaculaire, puisqu'elle s'en prend tout de suite, en introduction, à la statue qui accueille le visiteur, les professeurs et les étudiants et les auditeurs dans la cour même de l'institution qui vient de l'accueillir en son sein. Cette statue représente le savant Champollion, le découvreur des hiéroglyphes, le premier conservateur du département des antiquités égyptiennes nommé par Charles X au Louvre et qui est mort à la tâche, comme on le sait, par cette passion qu'il a eue pour l'Égypte. L'Égypte est tout pour moi, je suis tout à elle, disait-il dans une phrase assez magnifique. Bénédicte Savoie fait remarquer que cette statue l'a vivement frappée et elle utilise une rhétorique qu'elle appuie sur une citation du jamais vu qui devient inoubliable qu'elle emprunte à Walter Benjamin. Elle remarque que Champollion met le pied sur la tête d'un pharaon et elle y voit un geste d'une très grande violence, à la fois de domination et évidemment d'impensée coloniale, puisque l'Égypte est un pays de l'Orient et que nous sommes dans un contexte avec la date de la statue de 1875 qui est le contexte de la colonisation par la France républicaine, jeune républicaine, d'une partie du monde au sud de la Méditerranée. Elle y voit dans cette statue donc une violence incroyable qui interroge tous ceux qui n'ont pas encore remarqué cette violence et elle ne peut pas s'empêcher évidemment de souligner de ce fait que le Collège de France lui-même n'a pas fait son travail, puisque personne avant elle n'avait vu que Champollion piétinait un pharaon dans une attitude d'une grande violence. Elle renvoie ici à la théorie de la tête coupée dans l'iconographie occidentale. Elle cite David et Goliath, et elle voit également dans cette sculpture trois libidos. on a, je crois, pas mal déjà parlé de la question du sexe et de l'obsession sexuelle. Alors là, je m'abrite derrière elle, parce que je ne voudrais pas, moi, passer pour un obsédé. Évidemment, étant un homme, en plus, ça peut présenter des graves dangers. Alors, ces trois libidos, quelles sont-elles? Un jeune savant, beau, qui travaille sur le passé. Un pharaon, très beau, mais qui est par terre. Et puis, la domination occidentale, bien sûr, sur les autres mondes. Alors, c'est une attaque d'une grande force, évidemment, qui a laissé beaucoup de gens pantois, mais assez rapidement, il a été remarqué tout de même un certain nombre d'erreurs. Alors, des erreurs factuelles, on peut pardonner à tout savant qui propose une théorie très large, évidemment, mais aussi, évidemment, des erreurs de lecture et d'interprétation qui sont en réalité dues au fait que, vraisemblablement, soit c'était un effet rhétorique, soit les ouvrages et les articles qui traitent de cette statue n'ont pas été étudiés de près par l'autrice. Cette statue attaquée comme cela, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement que cette attaque vienne de quelqu'un qui enseigne au Collège de France, c'est qu'en fait, elle reprend une polémique bien plus ancienne qui a été peut-être un tout petit peu ignorée des Français qui ne se sont pas assez intéressés à cette question. En 2011, en novembre 2011, un musicien égyptien vivant à Paris passe lui aussi devant cette statue par hasard et se trouve extraordinairement frappé par ce pharaon piétiné par Champollion. Il écrit sur son blog et il fait un petit film qu'il met en ligne pour mettre en accusation la statue, que cette statue, dit-il, me scandalise en tant qu'être humain. Et il y voit une insulte intentionnelle à l'Égypte. C'est-à-dire que la statue de l'homme qui a consacré sa vie à l'Égypte et à l'étude et à la compréhension de l'Égypte devient l'ennemi de l'Égypte. Nous sommes en 2011 dans la grande révolution égyptienne. À ce moment-là, bien sûr, les chronologies ne sont pas complètement inintéressantes. Ces propos sont relayés progressivement jusqu'en 2013 dans la presse égyptienne. Et puis, lors d'un reportage en mars 2013, donc 4 ans avant la leçon au Collège de France, sur TV5 Monde, on voit un long article consacré à cette polémique autour de la figure de Champollion et de l'affreuse statue qui, dès lors, dans des publications de grand public, comme le Guide du Routard ou des sites internet, devient une statue polémique, ce qui n'avait jamais été jusqu'à présent. Je ne sais pas si, évidemment, l'intervention de notre collègue du Collège de France a joué un rôle, mais on note qu'en mars 2018, la polémique repart de plus belle et un journaliste qui écrit dans un média égyptien lance une pétition sur change.org adressée au président de la République de France, « Retirer la statue outrageante ». C'est le titre de la pétition qui recueille 30 signatures avant d'être fermée par le site. On peut avoir raison en étant minoritaire. En 2020, en juin 2020, dans un journal dont le titre est Al Monitor, mais peut-être je ne prononce pas bien, une journaliste met en parallèle le geste que nous voyons ici avec l'assassinat de George Floyd par un policier, comme vous le savez, et elle décrit qu'il s'agit d'une statue raciste. Et comme elle est quand même cultivée, cette journaliste, elle a regardé qui était le sculpteur. Le sculpteur est Bartholdi, et il apparaît dans la biographie de Bartholdi que républicain, progressiste, franc-maçon, il n'est pas un très bon client du racisme occidental de base, sans doute son impensé. Et elle s'étonne que l'homme qui a fait la statue de la liberté puisse faire une statue raciste. Et évidemment, c'est une contradiction qui nous paraît relativement insurmontable. Enfin, en avril 2021, le site Virus de la Culture décrit la statue, selon sa nouvelle dénomination, Champollion écrasant la tête de Pharaon. Alors évidemment, lorsqu'on regarde cette statue, on est frappé par ce geste qui est un peu fort, c'est vrai, et il a été fait allusion tout à l'heure à une tradition d'iconographie occidentale qui consiste à représenter les ennemis foulés aux pieds, soit du cheval, soit de la personne elle-même, casquée, bottée. On a beaucoup de sculptures de ce type dans la Renaissance italienne, comme dans la grande sculpture de la monarchie française. Mais comme Champollion n'est pas spécifiquement le profil psychologique de ce genre de personnage, et que de toute façon il était mort, il faut donc en venir à s'interroger sur le contexte de la statue, c'est-à-dire en fait de faire un travail scientifique de base qu'on enseigne dans les premières années de la licence. c'est-à-dire mettre en contexte, étudier l'œuvre, chercher des comparaisons, et éventuellement ensuite en venir à la question de savoir si, oui ou non, on peut faire parler l'auteur, en l'occurrence ici Bartholdi, ou le commanditaire de la statue. Mais le commanditaire de la statue, qui est-il? Eh bien, ça devient un peu compliqué, car c'est la ville de Figeac, dans le Lot, dont, vous le savez, Champollion est issu, sa ville natale, et cette statue n'est jamais arrivée jusque-là, malheureusement peut-être, ou heureusement maintenant, pour la ville de Figeac, qui a un grand musée Champollion, mais sans la statue de Champollion écrasant la tête de Pharaon. Alors, cette statue, elle a été exposée à une date qui n'est pas la bonne, ça a été repéré tout de suite hein, par des historiens, car cette statue date de 1867. Alors, si on peut montrer la première vue, en revenant, voilà. C'est un plâtre qui se trouve au musée de Grenoble, et le musée de Grenoble est très imprudent parce qu'elle fait partie des incontournables sur le site internet du musée. Donc là, je mets en garde mes collègues sur cette incontournabilité, qui est une très dangereuse. Hein, voilà. Alors, ce plâtre, il a été offert par les héritiers de Bartholdi en 1906 à la ville de Grenoble, où il avait été lui-même enseignant quelques années, Champollion, et qui possède un grand lycée Champollion dans la ville. Cette statue a été envoyée au lycée lui-même, d'ailleurs, dans les années 20, où on a un peu perdu sa trace, jusqu'à ce qu'on découvre, évidemment, que c'était le plâtre original de l'artiste. Et à ce moment-là, le conservateur, en 1989, a souhaité que la statue rentre au musée pour la restaurer et l'offrir au public, à un public donc beaucoup plus large que les lycéens et leurs professeurs. Guerre entre le conservateur et la mairie, qui ne voulait pas que le lycée soit dépouillé de la statue que les élèves adoraient, les complètement inconscients. Hein, voilà. Et après des années de combats très administratifs, dont je vous passe les rebondissements tous plus passionnants les uns que les autres, l'association des anciens élèves du lycée Champollion se cotise pour aider à la fonte en bronze d'une copie qui sera exposée et inaugurée en grande pompe en 2014 dans la cour du lycée Champollion, copie de 23 000 euros pour laquelle les élèves, ont versé 7 000 euros de leur poche parce qu'ils aiment Champollion. Tout ça, évidemment, montre une très grande légèreté. C'est 2014, c'est le moment où la polémique a atteint sa première acmé, si j'ose dire. Mais si on est plus sérieux et qu'on revient sur le contexte de cette statue, et peut-être on peut montrer l'image numéro 2, il s'agit en réalité, évidemment, d'une chose beaucoup plus intéressante une fois qu'on a mis les mains dans les archives. Il s'agit en effet d'une statue qui a été exposée pour la première fois au public en 1867 pour l'Exposition universelle, que tout le monde connaît, et pendant laquelle Napoléon III accueille l'Europe et le monde à Paris, entre les Invalides et le Champ de Mars, Exposition universelle qui est inaugurée le 1er avril 1867 et qui marque, croit-on en France à ce moment-là, l'apogée du régime qui va s'effondrer 3 ans et demi plus tard. Dans cette Exposition universelle, l'Égypte comme nation a souhaité être présente après beaucoup de débats. Ismaël Pacha, le petit-fils de Mehmet Ali, qui est un personnage très important, a souhaité que, dans le concert des nations modernes, l'Égypte soit représentée. Il a donc commandé à son directeur des Antiquités, qui est Mariette, le célèbre Français qui travaille pour lui et pas pour la France, de préparer de quoi montrer au public international et français, bien sûr, la grandeur de l'Égypte qu'il entend rénover. Les bâtiments qui articulent les pavillons de l'Égypte sont au nombre de 3. L'un représente l'architecture islamique traditionnelle, l'autre un palais, et enfin, le dernier, ce temple, dont Mariette a donné, avec l'architecte Drevet, les plans inspirés assez fortement du temple de Philae. Ce travail très spectaculaire est, pour les Parisiens, depuis les artefacts qui avaient été produits après la campagne d'Égypte, un choc visuel extraordinaire avec la culture égyptienne de l'Antiquité, qui n'est qu'une des parties que Ismaël Pacha entend montrer, puisqu'il veut montrer, bien sûr, l'Égypte musulmane et aussi l'Égypte moderne qu'il entend défendre dans le concert des nations. Ce temple, qui est une architecture éphémère, qui a disparu juste après l'exposition, évidemment, est précédé d'un dromos avec 10 sphinx qui ont survécu, pour certains, qui sont encore conservés, qui sont des monuments aujourd'hui restaurés dans une propriété qui se trouve en Île-de-France. Et le public qui accède à ce temple rentre en fait dans un petit musée, puisqu'il y a à l'intérieur un aménagement muséographique avec une verrière qui permet d'avoir une lumière zénitale. et sont présentées des œuvres des collections du musée du Bulac qu'avait créé et dirigé Mariette, musée dont d'ailleurs il va assurer que les Français, les colonisateurs évidemment, ne saisissent pas les œuvres, puisque l'impératrice Eugénie, qui visite le pavillon, fait remarquer qu'elle trouve très beaux les bijoux d'une impératrice pharaonique, et alors on lui dit que c'est la propriété de l'Égypte et donc on ne peut pas les lui laisser. Il faut dire d'ailleurs que Ismaël Pacha n'a pas dit lui-même non, il a laissé le conservateur faire son travail de conservateur et défendre les collections nationales égyptiennes, et il s'en est tiré avec beaucoup d'élégance, et l'impératrice est rentrée bredouille de sa petite visite. Cette statue dont je vous parle était placée, malheureusement la photo est coupée, mais vous en apercevez l'extrême bout à la gauche, son socle, sur le côté donc, gauche du temple. Si on revient maintenant à la statue, donc la photo suivante, on peut peut-être maintenant comprendre que cette statue a été donc accueillie par le chef d'État de l'Égypte dans le pavillon de l'exposition universelle. C'est lui qui a donc validé évidemment la réalisation de cette statue et son exposition pendant les différents mois de l'exposition universelle. Et il faut peut-être maintenant s'intéresser de plus près à son iconographie. Une iconographie qui doit beaucoup à des tableaux que le siècle avait déjà illustrés, comme chez Ingres, et qui nous montre un personnage qui pose le pied. Alors là, il y a un peu de rhétorique, qui pose le pied, et non pas qui écrase, qui pose le pied et qui a, vous le voyez, un air mélancolique. On ne peut pas dire qu'il ait l'air triomphal. Hein. Ce n'est pas Louis XIV écrasant l'hérésie protestante. Non, non, il est très plongé dans sa méditation. Il y a des papyrus qui sont sur sa jambe gauche, papyrus qui sont illisibles pour le public. Alors, évidemment, il faut imaginer que pour un sculpteur qui fait un monument public, il faut absolument que, considérant le niveau de culture générale des visiteurs d'un monument comme une statue dans une place ou dans une rue, il faut bien quand même spécifier le sujet. Alors, Champollion, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est des papyrus, mais c'est peut-être plus difficile avec des papyrus. Et donc, le choix est fait d'une statue, d'un morceau de statue. Ça aurait pu être aussi un morceau de chapiteau, en l'occurrence, mais la statue a un pouvoir d'évocation extrêmement fort. Et Bartholdi, bien sûr, comme un bon sculpteur qu'il est, a besoin de cette force de l'évocation. Donc, il choisit un vestige et il est évident que cette tête n'est pas coupée, comme le dit notre collègue du Collège de France, mais elle est brisée. Elle est brisée parce que, d'abord, la base montre des chutes de pierre, mais aussi parce qu'il y a une grande fente, une cassure dans le côté qu'on ne voit pas sur la photographie du pchent. Et donc, on voit bien, évidemment, ici, qu'il s'agit d'un vestige. Et ce vestige, il n'est pas brisé par Champollion. Il est découvert par Champollion et il s'appuie dessus pour avancer. Parce que la mécanique intérieure de la statue, c'est que du sol sort cette Égypte qu'on ne comprend pas, que ce jeune homme qui veut absolument comprendre, et donc il s'est tué à la tâche pour comprendre cette Égypte, ça passe par la médiation du papyrus qui est au milieu, dont il a pu déchiffrer les hiéroglyphes. Et donc, il y a une ascension de la connaissance. Ce n'est pas seulement, je crois, comme ça a été dit en réponse à Bénédicte Savoie, une rêverie sur le monde antique. Ça peut être un premier niveau de lecture. Il y a quelque chose d'une rêverie. Mais à mon avis, il y a plus. Il y a de la domination, oui, je peux être d'accord avec ce mot, mais pas une domination militaire, pas une domination d'écrasement, une domination de la connaissance, de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on découvre dans le sable, par l'étude, par la méditation, par l'acharnement, on peut dominer l'énigme et résoudre l'énigme, faire parler le pharaon, faire parler le sphinx. Et donc c'est un homme qui doute, qui est en travail, comme on dirait d'une femme qui accouche, hein, il veut accoucher de cette Égypte en la comprenant. Donc c'est, selon les mots d'ailleurs qui ont été employés à l'époque, une leçon vivante d'archéologie. Hein. La statue est active, ce n'est pas un monument fade, ce n'est pas un monument convenu, c'est un monument d'énergie scientifique. Et c'est pour ça qu'il a eu, en 1875, très naturellement dans sa traduction en pierre, toute sa place au cœur de la cour du Collège de France, ce lieu merveilleux fondé par François Ier. Là aussi, il y aurait sans doute beaucoup à dire, comme chez Ronsard, sur François Ier, mais c'est quand même le fondateur du Collège de France, la plus belle institution de notre système d'enseignement supérieur. Voilà, donc si on regarde un peu les choses de près, si on regarde la statue de près, si on regarde le contexte, si on remet tout ça en place, on voit que la lecture qu'a fait notre collègue du Collège de France, en fait, se résume à une provocation assez habile sur le plan rhétorique dans un discours comme une leçon inaugurale, mais ne repose en fait sur rien du tout. Et peut-être que si c'était un exposé que nous avions eu en première année de licence, nous aurions été un peu sévères avec la rapidité et surtout le manque de méthode employé par Bénédicte Savoie. Alors je crois que s'il faut se réjouir que nous soyons encore capables de tenir un tel colloque malgré toutes les pressions et que nous ayons envie d'avancer dans l'idée de reconstruire, eh bien peut-être que si on se souvient de la célèbre parole « Quoi de nouveau ce qu'on a oublié ?» revenons à la bonne méthode historique d'analyse et de mise en contexte, et je crois que tout le monde s'en trouvera très bien. Je vous remercie.
Merci infiniment pour ces très beaux exposés. Alors nous n'avons hélas plus le temps de faire l'élément de débat parce qu'il nous faut conclure, mais merci infiniment à vous d'avoir présenté ces exemples, d'avoir aussi joué le jeu de la reconstruction et d'avoir apporté ces illustrations, j'allais dire emblématiques, ce qui était absolument indispensable. Nous allons passer donc à la conclusion. Merci encore. Et donc, j'appelle Emmanuel aussi, Hénin, donc Gilbert, qui sera pour le comité Laïcité République, et M. Couleron, qui est là, je crois. Voilà, nous allons tous nous installer pour les quelques mots de conclusion. Merci.